Bonsoir à tous. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Permettez-moi de me présenter. Je suis Jocelyne Dazé, chargée de projet à la Direction de la programmation culturelle. Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir pour une 7e conférence sur l'histoire de la région montréalaise, présentée en collaboration avec l'INRS Urbanisation, Culture et Société. Cette série de conférences est en lien avec le projet « Histoire de la région montréalaise des origines à nos jours », auquel BANQ collabore en fournissant de l'aide professionnelle et en facilitant l'accès aux ressources iconographiques, photographiques, aux archives et à l'ensemble des documents traitant du sujet. BANQ travaille également au rayonnement du projet, notamment par la présentation de cette série de conférences. La thématique porte aujourd'hui sur les périodes troubles de la Grande Crise et de la Deuxième Guerre mondiale dans la région montréalaise. Les conférencières invitées sont Sylvie Tachereau de l'Université du Québec à Trois-Rivières et Magda Farny de l'Université du Québec à Montréal. La rencontre est animée par M. Denis Fougère. Avant de lui céder la parole, je vous demanderai d'éteindre vos téléphones cellulaires. Merci de ne pas prendre de photos ni d'enregistrer la conférence que vous pourrez d'ailleurs réentendre sur le portail de la Grande de BANQ. Bonne soirée, M. Fougère.
Merci. Donc, bonsoir. Merci d'être ici ce soir. Donc, la conférence à laquelle vous allez assister ce soir s'inscrit dans le projet d'histoire de la région montréalaise qui est mené à l'INRS, Centre Urbanisation, Culture et Société, depuis l'été 2005. Pardon. Le projet d'histoire de la région montréalaise, c'est 2 tomes. Ce sont 26 auteurs des différentes universités montréalaises et même hors de la région de Montréal, ainsi que différents collèges qui participent à la rédaction de ce projet, de ce livre, en fait. Projet d'histoire de la région montréalaise, ce sont 2 tomes que nous croyons, que nous espérons, qui seront publiés à la fin de l'année 2011. Et dans le cadre de le projet d'histoire de la région montréalaise s'inscrit aussi dans ce que l'INRS met en chantier depuis les années 1980, qui sont les chantiers d'histoire régionale. Donc, après les histoires de la Gaspésie, des Laurentides, ainsi de suite, nous arrivons à la fin du cycle avec l'histoire de la région montréalaise. Donc, grâce à BANQ, nous avons des auteurs qui participent à notre projet qui viennent présenter souvent soit le chapitre maintenant complété ou en chantier. Ils viennent présenter leurs résultats que vous allez trouver, heureusement, en vous procurant ces bouquins lorsqu'ils seront publiés bientôt. Donc, je vous présente Madame Sylvie Tachereau, qui est professeure à l'UQTR, à Trois-Rivières, spécialisée en histoire sociale, qui débutera en nous parlant de la période de la Grande Crise. Et puis, Mme Magda Farny, du département d'histoire de l'UQAM, qui est spécialisée en histoire des femmes, de la famille et de l'État-providence, qui nous parlera de la période d'après, qui est la période de la guerre. Rapidement, sur le déroulement, nous avons 1h30, donc autour d'une demi-heure pour chacune de nos conférencières. Et par la suite, nous aurons donc une période de commentaires ou de questions d'environ une demi-heure. Voilà. Merci donc à Mme Tachereau.
Merci. Bonsoir. D'abord, j'aimerais saluer nos hôtes, la BANQ et l'INRS, et avant tout Dany Fougère, et je le remercie de cette invitation. Alors, mes réflexions sur les Montréalais et la crise, je n'oublie pas mes leçons, des années 30, portent essentiellement sur les aspects sociaux et politiques de la crise, la façon dont elle touche les Montréalais, la façon dont ces derniers réagissent. Dans un premier temps, je vous montre mon plan d'ensemble. Je rappelle l'impact qu'a la crise sur l'économie et surtout sur les travailleurs de cette ville, puisque nous savons des efforts, de leurs efforts pour passer au travers de la crise au quotidien. Enfin, ce que nous savons aussi de l'organisation des secours publics et la façon dont on les conçoit. Et puis, pour conclure, des réactions des Montréalais qui s'expriment dans des mouvements politiques et sociaux et en particulier des mouvements de jeunes. Montréal est la métropole d'un pays exportateur de blé et de matières premières, un des pays les plus durement touchés par la Grande Dépression. Les premiers secteurs affectés sont précisément ceux qui, ont fait de Montréal une métropole, ceux qui sont liés aux échanges avec l'Ouest, le transport du blé, le matériel agricole, et à l'exportation, c'est-à-dire les activités portuaires, d'une part, le trafic ferroviaire et la construction ferroviaire, et plusieurs activités qui y sont liées. Le secteur de la construction, qui est considéré comme un baromètre de l'économie, est très vite affecté lui aussi. Pour les Montréalais qui travaillent dans ces secteurs, cela se traduit par de lourdes pertes d'emplois et de fortes diminutions d'heures de travail. Un exemple, en 1930, les énormes ateliers Angus du Canadien Pacifique, dont vous verrez toute une série de photos dans l'exposé qui suit, qui sont situés dans le quartier Rosemont, en 1930, donc, emploient entre 6 et 7 000 travailleurs. 4 ans plus tard, en 1934, ils n'en retiennent plus que 2 500, qui travaillent seulement 14 heures semaine, et leurs représentants syndicaux se luttent contre la mise à pied d'un millier d'autres travailleurs. En dehors de ces secteurs, cependant, comme la structure économique de Montréal reste surtout basée sur l'industrie légère et la production de biens de consommation courante, alimentation, vêtements, textiles, industrie connexe, elle résiste assez bien à la crise. Du moins, dans ces secteurs, la crise se traduit davantage par des baisses de salaires et des diminutions de temps de travail, mais qui peuvent être très substantielles, plutôt que par des pertes d'emploi ou par un chômage continu et prolongé. Mais forcément, cette combinaison de chômage et de baisse de revenus qui affecte des milliers de travailleurs, jusqu'à un tiers des travailleurs de la ville, affecte globalement le commerce, le secteur des services et le secteur financier. La crise frappe inégalement selon les classes sociales, les qualifications, l'âge et le sexe. Elle touche avant tout des ouvriers, en particulier des ouvriers peu qualifiés. Et à Montréal, bien que les travailleurs d'origine britannique ne soient pas du tout épargnés par la crise, ces caractéristiques désignent proportionnellement plus de Canadiens français ou d'immigrants récents que de Canadiens anglais. Les jeunes sont tout particulièrement éprouvés par la crise. La crise leur enlève la possibilité d'un apprentissage, elle reporte, voire elle compromet leur entrée sur le marché du travail. Et lorsqu'ils ont un emploi, n'ayant pas de famille à charge, ils comptent parmi les premiers employés licenciés. Au plus fort de la dépression, à l'hiver 1933-1934, près de 250 000 personnes reçoivent des secours de la ville, soit environ 28 % de la population de la ville même. La proportion serait plus proche de 38 % pour la population franco-catholique. Mais en réalité, les statistiques dont on dispose sur la crise et sur le nombre de chômeurs sous-évaluent ces nombres et sous-évaluent le nombre de chômeurs et sous-évaluent aussi les besoins des chômeurs. Il est vrai que le chômage continu et prolongé ne concerne qu'une minorité de travailleurs, mais les coupures de temps et de salaire et de façon générale la dégradation des conditions de travail concernent un bien plus grand nombre de personnes. De plus, à Montréal, la crise s'éternise. Elle n'est vraiment résorbée que par l'économie de guerre. Entre-temps, elle épuise les ressources, elle mine l'espoir. Alors, ce sont des photos, donc, photos et un tableau de Harry Meyerowitz, qui est un peintre juif montréalais, de soupes populaires qui vont très vite, bien sûr, on se tourne très vite, les premières institutions vers lesquelles on se tourne, ce sont les églises et donc qui organisent des soupes populaires un petit peu partout dans les quartiers populaires. Nous connaissons mal les effets de la crise sur les ménages des classes moyennes, mais il est certain qu'une partie des stratégies dont je parle ici, dont il est question ici, concerne également ces ménages. Dans les premiers mois de la crise, les ménages ouvriers font ce qu'ils font d'habitude en période de chômage saisonnier, puisque ça leur est familier. Les hommes essaient de combler leurs revenus par des petits boulots, notamment par des travaux d'entretien. Par exemple, les travailleurs du port, en général, s'occupent du déneigement pendant l'hiver. Mais les mois passent, le chômage se prolonge, les horaires de travail ou les salaires s'amenuisent, d'autres groupes de travailleurs sont touchés, et bien sûr, le moindre de ces petits boulots devient l'objet d'une concurrence féroce. Plusieurs ménages montréalais vont tenter de survivre en mettant sur pied des commerces qui demandent très peu de capital de départ, en particulier dans le secteur de l'alimentation, des petites épiceries et ce que les Montréalais appellent les petits restaurants, qui sont les ancêtres de nos dépanneurs. En voilà un, donc la photo date bien des années 30, mais je précise que les commerces dont je parle sont souvent encore beaucoup plus modestes que celui-là. Dans les années 30, on va voir se multiplier ce type de micro-commerce à une vitesse fulgurante, en particulier dans les quartiers de périphérie, les quartiers assez récemment peuplés. Ils apparaissent très vite, ils disparaissent tout aussi vite parce que, dans le contexte de la crise, ils durent la plupart du temps que quelques mois ou un ou deux ans. Plus souvent, les familles comptent sur leur rapport avec les épiciers de quartier pour obtenir le crédit qui, habituellement, leur permet de passer à travers les périodes de chômage saisonnier. Mais ce rapport, justement, est mis à l'épreuve par la crise. Il est très préoccupant pour le boutiquier, il est très oppressant pour les mères de famille qui le négocient. Bref, c'est un rapport qui devient extrêmement conflictuel et qui risque de se rompre. De la même façon, le chômage prolongé empoisonne les relations entre les ménages montréalais et les propriétaires. À propos, c'est de ça en particulier que parle la Bolduc, ou c'est ce qu'elle chante dans ses turlutes dans les années 1929-1930, quand les Montréalais la découvrent. Des conflits avec l'épicier, des conflits avec la compagnie d'électricité, des conflits avec le propriétaire. Entre 1931 et 1941, la proportion des propriétaires montréalais, qui est déjà faible par rapport à d'autres villes canadiennes, diminue de façon très sensible. Pour beaucoup de familles qui voient leurs revenus diminuer, les déménagements se succèdent dans des logements de plus en plus petits et de plus en plus détériorés. Et bien sûr, les évictions pour loyers impayés ne sont pas rares. Elles signalent dans l'espace public la brutalité de la crise et une déchéance qui est plus souvent vécue de façon privée. De fait, la lutte que les Montréalais mènent pour maintenir des conditions de vie acceptables, les Montréalais touchés par la dépression, cette lutte, elle reste d'abord privée et elle est quotidienne. Évidemment, les mères de famille jouent un rôle de premier plan. Elles resserrent leur budget, elles intensifient leur travail domestique et souvent, elles contribuent aussi au revenu familial par des activités rémunérées, par exemple du travail à la pièce pour un atelier de confection. Et c'est à ce prix-là, et c'est un prix qui est très lourd, elles parviennent à faire un peu contrepoids aux effets de la crise. Pour avoir de l'aide, on se tourne souvent aussi vers le réseau familial. Beaucoup de Montréalais ont des origines rurales récentes ou encore de la famille à la campagne, voire sur une ferme. Au cours des années 30, ces liens sont sollicités de différentes façons. Lorsque la distance le permet, ils assurent aux citadins une aide alimentaire ponctuelle. C'est une façon, par exemple, de se procurer des légumes. Mais le chômage qui afflige la ville provoque par ailleurs un retour spontané vers la campagne, en particulier vers les fermes. C'est un mouvement qui est indépendant des programmes de colonisation mis sur pied d'abord par le gouvernement fédéral, ensuite par le gouvernement provincial au cours des années 30. Là, je parle d'un mouvement spontané dont cette carte vous donne une idée. Donc, les pastilles, les grandes pastilles que vous voyez correspondent à chaque fois à la population, non pas simplement la population rurale, mais bien la population qui vit sur les fermes dans chacun de ces comtés. Et en plus foncé, vous avez la proportion de population vivant sur des fermes qui s'est ajoutée entre 1931 et 1941. Dans l'ensemble, dans les comtés de la région montréalaise, cette proportion qui s'ajoute pendant la décennie des années 30, elle est d'environ 11%. C'est un pourcentage qui varie évidemment. Sur l'île de Montréal même, il est d'un peu plus de 14%, mais dans certains comtés, à Sheffield, Missisquoi ou Chambly, il passe aussi entre 16 et 19%. Toutes les stratégies dont je viens de parler sont déployées pour survivre, bien sûr, mais aussi dans l'espoir d'éviter d'avoir à demander des secours publics. Alors j'en viens à l'organisation de ces secours qui apparaît véritablement comme un exercice d'exclusion. Selon l'idéologie libérale et des valeurs que partage à l'époque une grande partie de la population, y compris des travailleurs eux-mêmes, l'individu est responsable de son sort. Aux yeux des classes moyennes ou aisées, les chômeurs sont toujours suspects d'oisiveté. C'est d'abord le travail et l'épargne, ensuite le réseau familial, qui sont censés garantir la sécurité des travailleurs. Enfin, en dernier recours seulement, ce sont les municipalités qui doivent prendre en charge les indigents et les chômeurs. Suivant ces principes, et jusque tard dans la décennie, les gouvernements fédéral et le gouvernement provincial refusent la responsabilité de l'aide aux chômeurs. Leurs interventions prennent surtout la forme de mesures ponctuelles, des fonds versés aux municipalités, ou de mesures temporaires, tels les programmes de colonisation que j'ai déjà évoqués, ou encore les camps de travail opérés par le gouvernement fédéral entre 1932 et 1936. Donc, la charge de l'assistance aux chômeurs incombe d'abord aux villes. Elle pèse particulièrement lourd sur les grandes villes et sur les villes industrielles. Et c'était très frappant au Québec. Montréal, qui rassemble 28% de la population de la province, assiste entre la moitié et les deux tiers des personnes qui reçoivent des secours. Il n'existe pas de système de sécurité sociale à cette époque au Québec. Et il faut rappeler aussi qu'au Canada, le premier régime d'assurance chômage n'est finalement adopté qu'en 1940. Comme il n'est pas question de donner pour rien, l'assistance fournie par les villes prend d'abord la forme un chômeur, selon un croquis de Ernst Neumann. L'assistance prend d'abord la forme de travaux publics. Mais ces travaux sont coûteux à organiser et très vite, on les fait alterner ou encore on les remplace par une aide directe, d'abord sous forme de bons d'achat échangeables dans des commerces que l'on complète par de petites allocations pour le loyer et plus tard sous forme de chèques. Dans un premier temps, l'administration municipale préfère confier la distribution de cette aide au réseau d'institutions de charité privée. Des réseaux qui, comme toute la société civile québécoise, sont divisés suivant les lignes ethniques et religieuses. En somme, il y a un réseau franco-catholique où est particulièrement active la société Saint-Vincent de Paul, un réseau anglo-catholique, un réseau anglo-protestant, et à Montréal, où s'est formée une importante communauté juive, existe également un réseau de charité privée juive. En soi, même si elles sont tout à fait familières aux Montréalais, ces distinctions, dans le contexte de la crise, mettent en relief les inégalités qui existent entre ces composantes de la population montréalaise, et en particulier entre la population franco-catholique, où les ouvriers et les simples manœuvres sont surreprésentés, et les anglo-protestants, chez qui, toute proportion gardée, les ouvriers qualifiés, les gens des classes moyennes, sont plus nombreux. Ce n'est qu'en décembre 1933 que l'administration municipale prend la relève de ces organismes. Mais que ce soit par la ville ou par les réseaux de charité privée, l'assistance aux chômeurs est donnée dans un esprit très similaire. D'une part, on cherche à distinguer les bons pauvres, les vrais pauvres, des autres, ce qui donne lieu à un contrôle de plus en plus tatillon des ressources de ceux qui demandent de l'aide. Par ailleurs, l'aide doit rester inférieure au minimum vital, inférieure au plus modeste des salaires. Il n'est pas question d'encourager l'oisiveté. Enfin, s'ajoutent à ça des priorités que définissent les normes sociales concernant les rôles masculins et féminins. Dans ce contexte, où de toute façon les besoins dépassent largement les moyens dont on dispose ou que les gouvernements sont prêts à mettre à la disposition des chômeurs, la gestion des secours devient véritablement un exercice d'exclusion de plus en plus poussé. L'aide, lorsqu'elle est accordée aux chefs de famille, aux pères de famille, mais pas aux mères de famille. On a beaucoup de mal, par ailleurs, à reconnaître que des femmes soient des travailleuses sans emploi. Et les rares programmes qui sont conçus pour leur venir en aide ont un statut particulièrement précaire. De même, les hommes célibataires, et a fortiori les femmes, sont généralement exclus des programmes de travaux publics. Et l'aide qu'on accorde très tardivement aux hommes et aux femmes célibataires est dérisoire. Et puis, non seulement on veut s'assurer d'aider les bons pauvres, mais d'aider ces pauvres à soi. Et comme Montréal reçoit la majeure partie des fonds versés aux municipalités du Québec par les deux niveaux de gouvernement, elle attire aussi des familles démunies, des petites localités environnantes qui n'ont pas les moyens de les assister. Cela devient très vite une préoccupation importante pour les Montréalais, pour l'administration montréalaise, au point où, à l'automne 1934, la ville resserre ses critères de durée de résidence minimale pour recevoir les secours. Il passe tout d'un coup de 6 mois à 1 an. Mais en réalité, à partir de l'automne 1934, c'est la date du 1er mai 1933 qui définit désormais la limite entre les Montréalais, les véritables Montréalais, ceux qui éventuellement peuvent avoir droit à des secours, et ceux qui sont des résidents de trop fraîche date. Ces mouvements de gens qui quittent la campagne ou des petites localités pour venir vers Montréal, chercher des secours, provoque manifestement des tensions dans les relations entre Montréal et sa région. Au mois de mai 1934, les journaux montréalais rapportent l'histoire d'une famille de miséreux de la ville de Terrebonne, dont le maire de Terrebonne aurait organisé l'établissement et payé les premiers mois d'un loyer dans un logement du quartier Montcalm à Montréal. Donc, c'est pas loin de la petite Italie. The Montreal Gazette, on voit l'article ici, n'hésite pas à parler de « dumping of rural families into Montreal and suburbs ». Le représentant du quartier de Montcalm au conseil municipal dénonce pour sa part l'intervention, voilà un article de la Patrie qui date de 1934 aussi, dénonce pour sa part l'intervention des autorités d'une ville étrangère. « Vous pouvez dire, précise-t-il aux journalistes, que Montréal est fermé aux chômeurs de la campagne ». Et il ne s'agit pas d'un événement isolé. Le fait de parler d'étrangers, de villes étrangères et d'étrangers en parlant simplement de gens qui ne sont pas des Montréalais établis depuis longtemps est plutôt répandu. Et à l'époque, en 1934, on parle de 15 à 20 000 familles venues de la campagne et qui ont besoin de secours public. Autrement dit, la crise provoque une crispation, une réaction de repli face à tous ceux qui, en temps de difficultés extrêmes, deviennent des étrangers. Et si l'étranger peut être simplement un Montréalais de trop fraîche date, on exclut a fortiori les immigrants récents. Pendant la crise, le Canada, comme la plupart des pays, va fermer ses portes très rapidement à l'immigration. Et dans les villes canadiennes, les immigrants non naturalisés qui demandent des secours publics sont susceptibles d'être déportés. En somme, à Montréal, dans les années 30, la gestion des secours aux chômeurs redéfinit une citoyenneté étriquée qui exclut une partie importante des chômeurs, notamment les femmes, les jeunes travailleurs, dont on ne reconnaît tout simplement pas la légitimité des besoins. C'est la couverture d'un document préparé à la fin des années 30, en 1939, pour le gouvernement fédéral et qui traite justement de ce problème des non-résidents dans les villes et qui propose des politiques, entre autres, pour uniformiser les critères de résidence. Les historiens ont souligné le fait qu'en dépit de l'intensité de la détresse causée par la crise, Montréal a traversé cette décennie, ou semble l'avoir traversée, dans une paix sociale relative, c'est-à-dire sans qu'il y ait de révolte ou de violence à très grande échelle. Au Québec, comme partout ailleurs, la crise provoque bien sûr un débat politique très vif, où le libéralisme économique et le capitalisme sont critiqués de tous côtés, voire rejetés. Un débat auquel les élites montréalaises, les élites journalistiques, politiques, cléricales, participent très activement. Et qui a sans doute une intensité particulière à Montréal, peut-être plus à Montréal qu'ailleurs au Québec, voire au Canada, puisque cette ville rassemble et met nez à nez pratiquement toutes les positions idéologiques qu'on retrouve au Canada, tout l'éventail des partis politiques et des positions idéologiques. Non seulement les tenants du libéralisme, qui reste l'idéologie dominante, mais les représentants de différents courants nationalistes, où les élites cléricales sont très présentes, les partis de gauche, le CCF, l'ancêtre du NPD, le Parti communiste, voire le petit parti d'extrême droite fasciste d'inspiration nazie d'Adrien Arcan. Il y a des épisodes de violence, il y a surtout une répression exercée contre les communistes ou tous ceux qu'on désigne comme tels, parce qu'il y a la loi du Canada qui est adoptée en 1937. Il y a beaucoup de manifestations des uns et des autres, dont certaines sont impressionnantes. Il y a des grèves ouvrières importantes, notamment dans le vêtement. Mais dans l'ensemble, a-t-on souligné, les affrontements restent surtout verbaux. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y ait pas eu de réaction plus forte, à plus grande échelle? Bon, ça fait l'objet en fait d'un débat entre les historiens, pas seulement à Montréal, mais ailleurs au Canada et en Amérique du Nord. Et certainement, les éléments de réponse peuvent varier aussi selon l'endroit. Mais je crois important de rappeler que parmi ces éléments, il y a le fait que la détresse des travailleurs ne déclenche pas forcément leur révolte. D'autant que, je le rappelle, au début de la crise, la plupart des Montréalais partagent très probablement l'idée selon laquelle l'individu est responsable de son sort. Même s'ils ne se croient pas directement responsables de leur chômage, Ils vivent ce chômage et surtout la nécessité de demander des secours publics comme un échec personnel et une humiliation. Il faut dire que toute l'organisation des secours va beaucoup dans ce sens. Je vous présente ici une photo, une parmi les dizaines dont on dispose sur le refuge Merlin, qui est un refuge de jour et pour hommes, de nuit plutôt, qui est géré par la ville de Montréal. Et la photo est prise en 1930. A priori, ça ne paraît pas être une très bonne photo parce qu'elle est un peu floue. Mais j'attire votre attention justement sur ce qui cause le flou dans cette photo. Regardez la file des hommes qui descendent l'escalier et qui tous tournent ostensiblement la tête. Et c'est ces gestes justement qui provoquent ce flou. Et quand vous regardez attentivement les gens qui sont rassemblés dans le hall, je crois que leurs gestes sont extrêmement éloquents. Donc le geste de non seulement de baisser la tête, on a l'impression que seulement quelques-uns d'entre eux n'ont pas pu s'empêcher de lever le regard et les autres s'enfoncent littéralement dans leur paletot et leur chapeau. Cette contradiction entre leur absence absolue de contrôle sur l'économie et le sens de responsabilité et d'échec se traduit certainement par une souffrance intense. Quoi qu'il en soit, il y a un débat très intense, un débat politique très intense et un brassage d'idées incroyable pendant les années 30 au Québec et à Montréal, mais aucun des partis ou mouvements qui naissent dans les années 30 ou auxquels la crise donne un second souffle ne réussit à gagner de façon durable l'adhésion des Montréalais des milieux populaires, des Montréalais des Canadiens français. L'exception à cette règle, ce sont probablement les très nombreuses associations de jeunes qui sont formées ou gagnent de l'importance pendant les années 30, et dont plusieurs ont Montréal comme point d'origine, notamment la JEC, les Jeunesses Ouvrières Catholiques, l'œuvre des terrains de jeu, par exemple. Il s'agit de mouvements de nature très différente. Ça va de l'association de loisirs, dont l'œuvre des terrains de jeu, les cercles des jeunes naturalistes, au mouvement d'action catholique ciblé. Et ceux-là sont particulièrement importants, ou pour certains, il s'agit de groupements qui prennent position, des positions politiques très nettes, par exemple le mouvement Jeune Canada, qui se déclare très nettement nationaliste. Mais en fait, la plupart de ces mouvements prennent plutôt leur distance par rapport à la politique de parti. Ils prennent leur distance parce qu'ils ne s'y retrouvent pas représentés. Ils se perçoivent comme un groupe social négligé, privé de sa jeunesse, parce que privé d'avenir, et pas bien représenté justement par la classe politique. Plutôt, ils se tournent résolument vers l'action sociale et développent, et ça, je reprends ici l'analyse de Louise Bienvenue, développent leur propre modèle de citoyenneté, une citoyenneté active, en mettant sur pied une gamme impressionnante de services sociaux. Quelles que soient les allégeances de ces groupes, il y a un lien évident, c'est ce que montrent les travaux de Bienvenue, entre la discrimination liée à l'âge auquel ces jeunes sont confrontés pendant la crise et le foisonnement de mouvements des jeunes. En cela, Montréal ne fait pas exception, il semble qu'il témoigne plutôt d'un mouvement qui est observé à l'échelle internationale. Dans les années 30, la jeunesse s'affirme comme un groupe social. Je termine là-dessus.
Alors, merci Sylvie. Maintenant, Magda va nous parler de la période entourant la Deuxième Guerre mondiale dans la région montréalaise.
Bonsoir. M'entendez-vous? Oui, OK. Les années de la Deuxième Guerre mondiale, 1939 à 1945, furent une période particulière, voire unique, pour Montréal et sa région. Loin des fronts militaires en Europe et en Asie, Montréal fut néanmoins touché, voire transformé, par ce conflit. Dans un contexte de guerre totale, où le Canada était un pays belligérant, La guerre a eu un impact marqué sur la ville, sur sa région et sur ses habitants. Je n'ai malheureusement pas le temps ce soir d'aborder toutes les facettes de l'impact qu'a eu la guerre sur Montréal. Ce que je vais plutôt faire, c'est de me concentrer sur un thème central, soit la place croissante de l'État dans la vie des citoyens et des citoyennes. La place de l'État était une place accrue grâce à des mesures adoptées pour la durée de la guerre, mais c'est une place qui ne disparaît pas pour autant à la fin du conflit. Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est une exploration de l'intervention étatique dans la vie des Montréalais et des Montréalaises pendant la guerre, à partir de deux exemples importants. D'abord, l'exemple des industries de guerre et des conséquences de ces industries sur la ville de Montréal et la région qui l'entoure. Ensuite, l'exemple des nombreuses mesures de guerre adoptées notamment par le gouvernement fédéral, les appuis que ces mesures ont suscités auprès de la population montréalaise, ainsi que la résistance qu'elles ont provoquée. Montréal était, pendant la guerre, à la fois territoire d'armement, et territoire de contestation politique, et souvent de contestation politique féroce. Enfin, en guise d'épilogue, je vais me pencher très brièvement sur l'immédiate après-guerre, et notamment sur la reconversion économique qui a eu lieu au lendemain de la victoire alliée, ainsi que sur les processus de reconstruction politique et sociale qui ont eu lieu à Montréal comme ailleurs dans les années 1940. Et en fait, dans la reconstruction d'après-guerre, on voit la confirmation de la nouvelle place de l'État dans la vie des Montréalais et des Montréalaises. Alors, je vais commencer par les industries de guerre. Pour Montréal, comme pour d'autres villes industrielles en Amérique du Nord, l'entrée en guerre en septembre 1939 a amené une reprise économique rapide et dramatique. C'était, comme vous pouvez l'imaginer, un grand soulagement après la misère de la crise que Sylvie vient de décrire. Pendant la guerre, Montréal était connu comme l'arsenal du Canada. Presque 30 % des Canadiens employés dans les industries de guerre travaillaient dans la région montréalaise. L'impact dramatique des industries de guerre sur le marché du travail montréalais est clair lorsqu'on regarde le changement dans le taux de chômage, d'un taux de chômage autour de 30 % en 1933, au pire moment de la crise, on passe assez rapidement à une situation de plein emploi, une fois la guerre enclenchée. Montréal avait bien sûr une longue histoire comme ville industrielle. Historiquement, les fabriques et les usines étaient concentrées près du port ou encore le long du canal Lachine, dans les municipalités et les quartiers ouvriers tels que Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles, Griffintown, Verdun. Pendant le conflit, plusieurs de ces usines, qui appartenaient à des intérêts privés, vont être mises à contribution pour l'effort de guerre. C'est le cas, par exemple, du Canadian Vickers, qui était établi au pied de la rue Viau, à Maisonneuve, qui se consacrait à la construction des navires. C'est le cas également du RCA Victor, à Saint-Henri, qui produisait des radios sans fil. À Rosemont, les ouvriers des usines Angus du Canadien Pacifique, qui en temps de paix produisaient des locomotives, se sont mis en 1939 à fabriquer des chars Valentine. Alors, dans des cas comme ceci, lorsque des usines privées, des entreprises privées, acceptent des contrats de guerre, c'est le gouvernement fédéral qui devient à toute fin pratique l'employeur principal. Par ailleurs, au début de la guerre, le fédéral a créé une société de la couronne, les Defense Industries Limited, DIL, qui avait le mandat de produire des munitions pour les forces alliées. Dans la région montréalaise, DIL concentre sa production dans cinq grandes usines, l'usine Cherrier à Saint-Paul-l'Ermite, l'usine Bouchard à Sainte-Thérèse, DIL Verdun, DIL Villeray et DIL Belleuil. Dans certains cas, comme celui du DIL Verdun, par exemple, le fédéral rénove et agrandit des usines déjà existantes. Mais dans d'autres cas, et je pense notamment aux avionneries, il y a des besoins particuliers. Dans l'industrie de l'avionnerie, on a besoin, par exemple, de plus d'espace, d'un environnement qui est libre de poussière, d'un environnement mieux éclairé. Et donc, pendant la guerre, deux entreprises, Norden Aviation et le département d'avionnerie de Canadian Vickers, se sont fusionnées pour devenir Canadair, et ils vont construire leur nouvelle usine à Ville-Saint-Laurent. Et en fait, à Ville-Saint-Laurent, où on a des terrains vagues et de plus grands espaces, on voit une concentration d'usines de guerre. Le Robert Mitchell, consacré à l'avionnerie et à la construction navale, le Continental Can, la Gurney Foundry Company, les Warren Industries, l'Industrial Glass, le Canadian Car and Foundry. Et ces usines emploient des centaines, voire parfois des milliers, d'hommes et de femmes. Canadair, par exemple, fait travailler 10 000 hommes. À Saint-Paul-l'Ermite, dans le Gardeur, à l'est de l'île de Montréal, l'usine Cherrier est une véritable communauté autosuffisante, ou presque. 345 bâtisses sur 1 500 acres de terre, 15 000 employés, hommes et femmes. À côté des usines de munitions elles-mêmes, on trouve à Saint-Paul-l'Ermite une usine de filtration d'eau, un hôpital, des services policiers et d'incendie, des résidences et des hôtels pour les employés, ainsi que des boutiques fréquentées par les ouvriers, surtout sur l'heure du dîner. Alors, qui sont ces ouvriers et ces ouvrières de guerre? D'où viennent-ils? D'où viennent-elles? Il est certain qu'il y a une migration de la campagne, des régions avoisinantes, pendant la guerre. Il est certain aussi que les industries de guerre absorbent les anciens chômeurs, les chômeurs de la crise, des pères de famille, des hommes célibataires. On trouve aussi dans les usines de guerre des adolescents et des adolescentes. Et on trouve des jeunes femmes célibataires et, de plus en plus, au fur et à mesure que la guerre avance, des femmes mariées. D'abord, des femmes sans enfants et ensuite, celles des femmes avec enfants. Si la propagande officielle de la guerre insiste sur le patriotisme de ces femmes, celles qu'on appelle les soldates de l'industrie, les ouvrières elles-mêmes justifient leur travail rémunéré, par leur situation financière ou familiale. On met sur place, c'est-à-dire le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux mettent sur place des garderies publiques pendant la guerre, mais celles-ci sont peu utilisées au Québec. Et il y a un véritable tollé, ou du moins des débats, suscités dans certains milieux par rapport au travail des femmes mariées. Elles sont tenues responsables du conflit marital, de la séparation, du divorce et la délinquance juvénile. Alors, juste pour vous montrer, pour vous donner une idée de ces usines de guerre, quelques images. Vous avez ici l'usine Angus, du Canadien Pacifique. On voit ici les fameux chars Valentine. Ici, vu de l'extérieur, comme Sylvie l'avait dit, l'usine Angus est à Rosemont, était à Rosemont. On a ici une petite idée du quartier ainsi que des chars. Ici, l'usine Vickers, la construction des avions. Les Montreal Locomotives Works. Et on voit ici des femmes à l'œuvre, situation plutôt inhabituelle dans ce genre d'usine consacrée à l'industrie lourde. Ici, la Robert Mitchell, des munitions. Ici, le RCA Victor, une ouvrière qui teste un radio sans fil. L'usine Cherrier, à Saint-Paul-l'Ermite. Ici, je reprends les mots de l'époque, c'est pas mon expression à moi, une bombe pour la Grande-Bretagne. On a ici une ouvrière, peut-être une vraie, peut-être une fausse ouvrière de l'usine Cherrier qui pose avec une bombe. Et ici, des ouvriers et surtout des ouvrières quittant l'usine Cherrier. Il y avait des trains qui transportaient les ouvriers et les ouvrières du centre-ville de Montréal à l'usine. Ce qu'on remarque sur cette photo, c'est, en fait, ce que moi je constate, c'est l'âge des employés et des ouvrières. On voit ici sur la photo que ce ne sont pas toutes, et même peut-être c'est pas la majorité, qui sont des jeunes femmes. On voit plusieurs femmes ici d'âge mûr. OK. Alors, la migration des hommes et des jeunes femmes de la campagne et des régions environnantes afin de participer aux industries de guerre soulève la question de la reconfiguration des relations ville-campagne amenées par la guerre. On sait que, déjà dans le recensement de 1921, plus de 50% des Québécois étaient considérés comme étant urbains. L'urbanisation du Québec ralentit pendant la crise, voire connaît quelques revirements, mais elle reprend de plus belle pendant la guerre. Des Montréalais qui avaient quitté la ville pendant la crise y retournent, et des milliers de Québécois ruraux s'y installent pour la première fois. Selon l'économiste Gilles Paquet, et je cite, « Autant de Québécois se sont urbanisés dans les années 40 que dans tout le siècle précédent. » Par ailleurs, des membres des forces armées logent à Montréal pendant la guerre, faisant en sorte que la population de la ville compte de nouveaux membres masculins, jeunes et temporaires. Ce qu'on voit donc, c'est la croissance de la métropole et l'étalement de la ville. Pour les régions agricoles également, la guerre apporte de nouveaux débouchés. Les besoins des forces armées et de la population urbaine grandissante en matière d'alimentation créent une nouvelle demande pour les denrées agricoles. Mais la guerre crée également, en milieu rural, une pénurie de main-d'œuvre. Certains jeunes hommes quittent la campagne pour les forces armées, tandis que les industries de guerre attirent et les jeunes hommes ruraux et leurs sœurs. Le comité québécois de la Commission canadienne de la jeunesse écrit vers la fin de la guerre que, et je cite, « Sans posséder de statistiques officielles, nous pouvons affirmer que l'industrialisation due à la guerre a presque vidé nos campagnes de leurs jeunes filles. » Par ailleurs, dans certaines parties agricoles de la région montréalaise, la guerre implique l'expropriation des terres pour les industries de guerre, comme à Saint-Paul-l'Hermite, où, le 10 juin 1940, les cultivateurs sont avisés de l'expropriation immédiate de leurs terres afin que le gouvernement fédéral puisse bâtir une usine de munitions. Une autre conséquence de l'explosion des industries de guerre et de cette reprise économique, c'est la création, la constitution d'une main-d'œuvre jeune, relativement bien payée et militante. Les conditions de travail pendant la guerre ne sont pas forcément faciles. Il y a du travail de nuit, il y a des heures supplémentaires, il y a du surménage. Il y a aussi un risque d'accident de travail, surtout lorsqu'il s'agit d'ouvriers et d'ouvrières inexpérimentés, des adolescents, certaines femmes, certaines personnes nouvellement arrivées en ville. Cette possibilité d'accident inquiète le gouvernement, pour qui un ouvrier blessé est un ouvrier absent qui ne contribue pas à l'effort de guerre. Les gouvernements fédéral et québécois adoptent tous les deux de la législation réglementant la sécurité au travail. Et les nombreux accidents en milieu de travail inquiètent également les syndicats. Pour beaucoup d'ouvriers, particulièrement, mais pas exclusivement, les femmes et les ados, le travail de guerre leur donne leur première expérience de la syndicalisation, leur premier goût de la syndicalisation. En temps de guerre, où la production continue est essentielle, les syndicats disposent d'une certaine marge de manœuvre auprès de l'employeur principal, le gouvernement fédéral. Par ailleurs, les syndicats avaient, dans ces grandes usines de guerre, des bassins de personnes nouvellement syndiquées. Ces conditions plutôt favorables aux revendications ouvrières ont amené de nombreuses grèves. De 1941 à 1944, le nombre annuel de grèves au Québec était 4 fois plus ce qu'il avait été dans les années 1930. 133 grèves dans la seule année 1942. Pendant la guerre, le paysage montréalais était donc parsemé par moments de lignes de piquetage, de pancartes, de ralliements ouvriers. On n'a qu'à penser aux grèves chez RCA Victor, chez Vickers, chez Imperial Tobacco, McDonald's Tobacco, Seagram's, Canadair, à l'usine Angus du Canadien Pacifique, sur les rails de la Montreal Tramways Commission. Et vous reconnaissez sans doute les noms des militants syndicaux et les militantes syndicales de l'époque, Madeleine Parent, Kent Rowley, Yvette Charpentier, Léa Robach. Mais les possibilités de militantisme sont réglementées, elles aussi, par l'État. Les conflits entre patrons et ouvriers sont gérés d'abord par le décret du Conseil privé 1003, une mesure de guerre fédérale, et ensuite par la nouvelle loi des relations ouvrières adoptée par le gouvernement québécois en 1944, qui vise à calmer le militantisme ouvrier en le canalisant dans des voies bureaucratiques. Et vous voyez ici cette affiche de guerre, cette affiche de propagande qui insiste beaucoup sur la collaboration entre patrons et ouvriers dans un but commun, dans une cause commune, celle de l'effort de guerre. Enfin, une dernière conséquence de l'implantation des industries de guerre dans la région montréalaise, c'est que dans les dernières années de la guerre et les premières années de la paix, on a à Montréal une crise de logement aiguë. C'est en fait une triple crise. Il n'y a pas suffisamment de logements pour une population qui a augmenté de manière significative depuis le début de la guerre. Ensuite, les logements qui existent sont en très mauvais état. Il y a eu peu ou pas de construction pendant la crise et il y a le rationnement des matériaux pendant la guerre. Enfin, le marché de logement est très cher. Il y a de l'inflation due à la guerre, il y a une pénurie de logements qui fait en sorte que les propriétaires en profitent. Le problème du surpeuplement des logis montréalais est encore pire dans le secteur est de la ville, des quartiers davantage ouvriers et francophones. La Ligue ouvrière catholique déclare en 1947 que 64% des logements ouvriers à Montréal sont surpeuplés et que 94 des logements ouvriers à l'est du boulevard Saint-Laurent sont surpeuplés. Alors, il y a des dimensions de classe et d'ethnie à ces chiffres. 41% des familles recensées par la Ligue ouvrière catholique se servent du salon comme chambre à coucher. 39% des logements recensés n'avaient pas de baignoire. Et il existe des crises semblables dans d'autres grands centres de production industrielle en temps de guerre, à Vancouver, à Toronto, à Halifax. La gestion de cette crise se fait difficilement. Le municipal, qui est le palier de l'État responsable en temps normal pour la question du logement, et le fédéral, qui est responsable des ouvriers de guerre et des forces armées, se renvoie la balle. C'est un domaine, en fait, où l'État hésite à intervenir pendant la guerre. Dans le cas montréalais, cette situation explique, entre autres, par le fait que le gouvernement local est dominé par les intérêts des propriétaires, notamment ceux représentés par la Ligue des propriétaires de Montréal et la Chambre de commerce. La seule véritable solution à la crise de logement entreprise pendant la guerre est la création, en 1941, de la Société de la Couronne Wartime Housing Limited. Le mandat de la Wartime Housing, de bâtir des petites maisons temporaires pour les ouvriers de guerre et les anciens combattants. À Montréal, ces communautés de maisons ont été construites dans des quartiers éloignés du centre-ville, mais proches des industries de guerre, à Notre-Dame-de-Grâce, à Rosemont, à Montréal-Nord. La communauté Wartime Housing la plus réussie à Montréal, c'est Norvik, qui est construite à la frontière de Ville-Saint-Laurent et Cartier-Ville afin de loger des employés des avionneries Nordun et Vickers. Environ 400 familles, francophones et anglophones, y ont habité. Aménagées en fer à cheval, là vous voyez le fer à cheval. Norvik consiste en 400 cottages ouvriers, chacun avec sa cour, ainsi qu'une école publique pour les enfants de la communauté. Et là, vous avez un plan de Norvik. Ce qu'il faut retenir cependant, c'est que cette solution étatique, la Wartime Housing, n'est pas du logement social. C'est une solution qui mise sur l'accès à la propriété privée. C'est une solution qui mise sur le modèle de la maison unifamiliale. Et donc, ce n'est pas d'une très grande aide pour les locataires, et la majorité des Montréalais sont des locataires à l'époque, pour les locataires aux prises avec la pénurie d'appartements, avec des loyers très chers et avec des propriétaires récalcitrants. Alors, on vient de voir le rôle central de l'État dans les industries de guerre. En fait, la poursuite de l'effort de guerre implique toute une toile d'araignées de directives fédérales. On voit pendant la guerre la création de nouveaux ministères, la création de nouveaux départements et un tas de règlements. la réglementation des trois forces armées, la réglementation de la main-d'œuvre, la réglementation de la consommation par le biais d'une série de mesures gouvernementales, des contrôles sur les prix, la récupération des matériels utiles en temps de guerre, le papier journal, l'aluminium, le gras, et le rationnement du thé, du café, du sucre, de la viande, du beurre, de l'alcool, du caoutchouc, de l'essence, des tissus. L'idée derrière le rationnement, c'est évidemment de conserver des matériels essentiels pour l'effort de guerre. C'est aussi de préserver une certaine équité d'accès à des biens de consommation sur le front domestique. Et c'est aussi d'éviter l'inflation qui pourrait résulter du fait d'avoir davantage d'argent que de biens en circulation. Ces règlements, ces nombreux règlements en temps de guerre, sont évidemment critiqués de plusieurs directions. Maurice Duplessis, par exemple, premier ministre du Québec de 1936 à 1939, qui revient au pouvoir en 1944, et qui était bien connu pour son opposition à l'expansion de l'emprise fédérale, va critiquer de manière virulente ce qu'il appelle, et je cite, « les restrictions vexatoires, stupides, inopportunes, intempestives ». Et il déclare que la bureaucratie remplace la démocratie. Alors, une critique assez féroce de la bureaucratie en temps de guerre. Montréal, qui est bien évidemment la métropole à la fois du Québec et du Canada, devient le site de l'application de ces mesures de guerre et aussi le site de la résistance, que ce soit ouverte ou clandestine, à ces mesures. L'application de ces mesures est souvent la responsabilité des femmes. Ce sont elles qui s'occupent de la récupération, comme l'a noté une affiche de propagande, « La ménagère en guerre récupère », et ce sont elles principalement qui surveillent les prix. La division de la consommation de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre obtient la collaboration active de 16 000 femmes à travers le Canada qui acceptent de surveiller les prix dans les magasins locaux et de consigner les infractions dans leur petit carnet bleu. Au Québec, ce sont notamment des femmes bourgeoises actives dans la réforme sociale et politique qui y participent. On pense par exemple à Thérèse Casgrain, à Germaine Parizeau, à Mariana Jodoin. Des associations locales de femmes, la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, le Conseil local des femmes, se dévouent également à la cause des consommateurs et surtout des consommatrices. Et lorsque les femmes jugent que les prix sont inacceptables, elles se mobilisent. Elles boycottent les étaux des bouchers et des cultivateurs au marché Bon Secours lorsqu'elles trouvent que les prix de la viande, des fruits et des légumes sont trop élevés. Elles font du lobbying auprès des gouvernements fédéral et provincial afin de légaliser la vente de la margarine comme alternative moins chère au beurre qui est, lui, rationné. Et en parallèle avec tous ces efforts pour convaincre les citoyens du bien fondé des directives gouvernementales, on voit à Montréal ce qu'on pourrait appeler des manifestations patriotiques, ainsi que des efforts pour inscrire le patriotisme et l'effort de guerre dans l'espace urbain. On peut penser, par exemple, au ralliement public pour encourager la population à acheter des obligations de la victoire. Au printemps 1941, par exemple, lors d'un ralliement au parc La Fontaine, des enfants brandissent des placards, des pancartes, sur lesquelles on peut lire « Serons-nous libres ou esclaves ?» et « Voulez-vous que nous grandissions en liberté ?» Par ailleurs, à l'automne 1945, le paysage montréalais est parsemé de défilés qui marquent le retour des anciens combattants. Les familles de ces vétérans, ainsi que des notables de la ville et des membres du gouvernement fédéral, se rassemblent à la gare Bonaventure ou à la gare Vigée pour rencontrer les trains, pour accueillir les soldats. Et des Montréalais assistent au défilé militaire au centre-ville pour accueillir le Royal 22e Régiment, les membres du Black Watch ou le retour du régiment de Maisonneuve. Et les morts de la guerre, ceux qui ne sont jamais revenus, sont néanmoins signalés dans l'espace montréalais. Leurs noms sont inscrits sur les monuments aux morts construits un peu partout dans la ville au lendemain de la Première Guerre mondiale. Leurs pierres tombales sont érigées dans les sections militaires des deux grands cimetières montréalais, Notre-Dame-des-Neiges pour les catholiques et Mont-Royal pour les protestants. Alors, vous avez ici une autre affiche de propagande qui essaie de faire en sorte que les citoyens évitent la surconsommation. On a ici une épicerie qui avertit la clientèle que le sucre, le thé et le café sont rationnés. Et ici, le camp d'entraînement militaire numéro 4 sur la rive sud, un rappel que même si Montréal était loin du front, il y a quand même une présence militaire dans la région. Ici, les membres des trois forces armées à la gare Windsor. Une foule sur la rue Sainte-Catherine qui fête la fin de la guerre. Même chose, mai 45. Célébration de la victoire en Europe et août 45 de la victoire au Japon. Donc, un certain nombre de ralliements, de manifestations dans l'espace montréalais qu'on pourrait qualifier de patriotiques. Mais à côté de ces exemples de patriotisme, on trouve bien sûr des critiques de la politique gouvernementale en temps de guerre. Et on trouve des Montréalais qui résistent les directives fédérales ou du moins qui essaient de les contourner. Il y a par exemple l'exemple du marché noir, un marché noir qui est répandu partout au Canada, mais particulièrement, paraît-il, au Québec et particulièrement à Montréal. On trouve par exemple le mouvement des squatteurs, ces squatteurs qui dénonçaient l'inaction gouvernementale dans le domaine du logement, mené par Henri Gagnon, un électricien, syndicaliste et organisateur francophone du Parti ouvrier progressiste, le nom qu'on donnait à l'époque au Parti communiste. Le mouvement des squatteurs consiste en un certain nombre d'anciens combattants qui demandent un toit pour leur famille. Ce sont leurs mots. Ces anciens combattants, pères de famille tous, réclament la préservation des plafonds sur les loyers, réclament l'arrêt des expulsions des familles incapables de payer leur loyer et réclament la construction du logement à prix modique. Alors, afin de convaincre le gouvernement du bien fondé de leurs revendications, ces hommes et leurs familles ont squatté dans des maisons inhabitées et dans des édifices publics désaffectés, y compris les casernes militaires à l'île Sainte-Hélène. Alors, c'était un exemple très féroce, en fait, d'une critique de la politique gouvernementale en temps de guerre. Et bien sûr, il y avait les nombreuses manifestations contre la conscription militaire. Ces manifestations sont particulièrement nombreuses en 1942, juste avant le plébiscite pan-canadien de la fin avril 1942, dont l'objectif était de libérer le premier ministre canadien, Mackenzie King, de sa promesse de ne pas imposer la conscription. Ceux qui s'opposent à la conscription se rassemblent notamment dans les marchés publics de la ville, au marché Saint-Jacques, Maisonneuve, Atwater, Jean Talon, ainsi que sur le Champ de Mars et au Monument national. Ces assemblées publiques, parfois composées de quelques centaines de personnes, à d'autres moments composées de plusieurs milliers de personnes, sont dominées par moments par des étudiants universitaires et on y entend des discours de la part des membres de la Ligue de défense du Canada, André Laurendeau, Maxime Raymond et Jean Drapeau, par exemple, ainsi que d'autres politiciens montréalais et québécois, Camillien Houde, Henri Bourassa, Paul Gouin, René Chaloux. Et à l'occasion, on entend aussi des leaders syndicaux comme, par exemple, Gérard Picard. Alors, un exemple d'une manif contre la conscription. Une publicité qu'on trouvait dans un journal montréalais, le conseil d'Henri Bourassa, qui conseille aux jeunes, en fait, de voter non au plébiscite. Et un exemple ici de ce qu'il faut faire, de voter non contre la conscription militaire. Alors, pour terminer, quelques mots rapides sur l'immédiate après-guerre. Sans surprise, la production industrielle a ralenti considérablement lorsque la guerre a pris fin en août 1945. Certaines usines ferment leurs portes.
DIL Verdun, par exemple, qui employait près de 7000 ouvriers en décembre 1942, n'en emploie que 2000 à la fin 44 et ferme définitivement en juillet 45. D'autres entreprises se recyclent en la production pour la consommation civile. Une fois la guerre terminée, Canadair, par exemple, ne produit plus de ses 47, ces avions qui servaient à transporter les troupes militaires, mais commence par contre à fabriquer des DC-4 pour l'industrie touristique. Par ailleurs, l'État prépare l'après-guerre avec un certain nombre de mesures sociales. Ce sont des mesures qui sont modestes dans la plupart des cas, mais qui sont néanmoins importantes et qui vont paver la voie à des mesures plus généreuses plus tard. Au provincial, on n'a qu'à penser au droit de vote aux femmes. Après 40 ans de mobilisation politique et de lobbying, les femmes québécoises obtiennent le droit de vote au provincial en 1940 et l'utilisent pour la première fois au provincial en 44. On peut penser aussi à la loi de l'obligation scolaire provinciale, adoptée en 43, qui fait en sorte que, du moins en principe, tous les enfants québécois sont obligés de fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. On sait que, dans les faits, les filles ouvrières et les fils des cultivateurs ne bénéficient pas toujours de ce nouveau droit social, mais c'est quand même un droit formel. Au fédéral, on a l'assurance chômage, adoptée en 40, les allocations familiales, adoptées en 44, et des mesures pour les anciens combattants, un ensemble de mesures qu'on appelle la Charte des vétérans. On a donc affaire ici à une citoyenneté formelle qui est en pleine expansion, ce qui m'amène à ma conclusion. À partir des années 40, l'État joue un rôle de plus en plus important dans la vie des Montréalais et des Montréalaises. En temps de guerre, il s'agit surtout, mais pas exclusivement, de l'État fédéral. En temps de guerre, l'État joue le rôle d'employeur, de patron, de surveillant, de pourvoyeur, de père de famille, parfois. Et je dirais que les liens tissés avec l'État pendant les années de guerre, la collaboration comme la contestation, ont contribué à façonner cette nouvelle citoyenneté de l'après-guerre. Il existe une nouvelle relation, parfois consensuelle, souvent conflictuelle, parfois coercitive, entre l'État et les citoyens. Il y a des rapports de dépendance, il y a aussi des liens de résistance. Et donc, ce qu'on voit dans les années de guerre, c'est l'établissement, la création d'une toile de relations, des obligations comme des droits, incarnés dans les chèques envoyés par Ottawa aux ménages montréalais, et incarné également dans les pétitions et les protestations citoyennes qui ciblaient le gouvernement. Certaines des directives fédérales et des fonctions fédérales disparaissent après la guerre, mais la place occupée par l'État, fédéral et éventuellement provincial, dans la vie des citoyens est dorénavant chose acquise. Merci.
Merci Magda. Merci Sylvie, ce fut très intéressant. Nous avons tout autour environ une demi-heure, 30 minutes pour commentaires ou questions. Je vous invite d'être assez court dans vos commentaires et si possible vous présenter, ça peut aussi être bien. Donc je vous invite.
Oui, bonsoir, moi, je m'appelle István, je suis d'origine hongroise mais j'habite ici depuis assez longtemps. Et ma félicitation, je vous remercie beaucoup pour tout ça. Moi, la seule question que j'aimerais savoir, quelque chose de semblable, parce que quand même, il y a la crise encore, par exemple aux États-Unis, un peu partout en Europe, tout ça. Est-ce que ça peut répéter ce genre de vigueur après vous, spécifiquement, mettons, à Montréal, en parlant?
Pourriez-vous répéter votre question?
Oui, est-ce que ça pourrait, mettons, répéter quelque chose de semblable, parce qu'il y a de vigueur un peu partout encore, je veux dire, de la crise, tout ça, en ce moment, aux États-Unis, en Espagne, en Grèce, par exemple, en France, etc., etc. Quelque chose de semblable pourrait répéter?
Quelque chose de semblable? Oui, oui. Bon, je pense que toutes les crises on retrouve des éléments récurrents. Toutes les crises affectent des populations de façon très semblable, mais je crois que la raison qui fait que très souvent la crise des années 30 reste sans doute le point de référence. À chaque crise, en fait, on rappelle, on compare avec la crise des années 30. Je ne prétendrai pas le faire sur le plan des aspects économiques de la crise, mais ce que je pense qui est important de rappeler, c'est oui, à la fois, il y a une récurrence de certains types de problèmes. Par exemple, on voit très bien que la jeunesse reste vulnérable à la crise et les enjeux sont très importants. Son entrée sur le marché du travail, ce que je disais à propos du danger de compromettre son entrée sur le marché du travail, de sa vulnérabilité, je crois que ça reste encore...
Ou si vous me permettez, juste un peu plus élaboré, est-ce qu'on peut apprendre d'avoir une meilleure solution lorsqu'on connaît aussi en détail, comme vous avez expliqué tout ça, mettons, dans l'avenir prêt, de s'en sortir un peu, plus avec une plus de compréhension, mettons, à cause justement que ça c'est un point de référence des années 30. Est-ce que ça facilitera, mettons, si jamais ça reviendra, ça répétera un peu?
Est-ce que ça félicitera de connaître l'histoire, oui. d'éviter la répétition de la crise? Voilà, bon, je ne pense pas qu'on évitera les crises. Je pense que ce qu'on peut se rappeler de celle-ci, et qui peut-être la distingue et qui fait qu'elle reste dans la mémoire collective comme probablement celle qui reste la plus marquante, c'est le degré... En fait, toutes les crises provoquent de la détresse, mais c'est le degré de détresse provoqué par celle-là et l'intensité est particulière. Je rappelle qu'on est vraiment dans une époque avant l'État-providence. Et c'est une énorme différence. C'est sûr qu'à l'heure actuelle, on voit depuis quelques décennies rogner les programmes mis en place justement dans les années de prospérité qui suivent la Deuxième Guerre. Et on voit de plus en plus rogner ces programmes, au moins d'assurance chômage par exemple, etc. Mais à la base, le principe même de la responsabilité collective face au chômage, par exemple, il est absolument acquis. Ça fait une différence énorme. Se rappeler de la crise, c'est peut-être se rappeler justement, puisqu'il y a une récurrence des discours qui responsabilisent l'individu et qui le culpabilisent. Je pense que c'est quand on touche à la crise des années 30, se rappeler l'intensité de la détresse qu'elle crée à un moment où justement toutes ces mesures n'existent pas, c'est certainement... Ça devrait être un frein à ce genre de discours. Voilà, c'est ce que je pourrais voir. Merci.
D'autres commentaires, questions?
Oui, bonjour. Mon nom, c'est Louis Théroux. Je suis étudiant au Cégep du Montréal. Ma question, ça serait plus en rapport, sans le conflit de la Deuxième Guerre mondiale, pensez-vous qu'une reprise économique de la crise aurait été possible ou quel genre de moyens auraient été employés si on n'avait pas eu une économie de guerre pour relancer l'économie?
Mais une manière de répondre à la question, et en fait, ça aurait été une réponse à la question précédente aussi. C'est l'une des choses qu'il faut savoir, c'est que la particularité, ou l'une des particularités de la crise des années 30, c'est que le Canada, à l'époque, l'économie canadienne était tellement dépendante de l'exportation des richesses naturelles. Et donc, l'une des choses qui se passe pendant la crise, c'est justement que les autres marchés ferment leurs portes. Il n'y a plus de marché pour ces richesses. Alors... Pour bien répondre à votre question, il faudrait voir, il y a un aspect hypothétique ici. Qu'est-ce qui serait passé dans les autres marchés du monde? Est-ce qu'il y aurait eu une demande pour le blé, par exemple, pour nos exportations? Ce qui est certain, c'est que la Deuxième Guerre mondiale recommence la production manufacturière, l'industrie secondaire, et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. Mais je pense que ce serait probablement pas possible de répondre à cette question sans penser aux autres marchés du monde. C'est-à-dire, le Canada est dans la crise comme bien d'autres pays du monde. L'économie canadienne se reprend dans les années 40 comme les autres économies occidentales.
Donc, on est déjà mondialisé en 1930, en fait.
Pour le meilleur ou pour le pire, oui.
Merci.
Louis-Dominique Levigne, dramaturge. Je voudrais savoir, pendant la crise, la JOC, est-ce que c'était un organisme de droite ou de gauche? Et une autre question, parce que je fais des recherches en ce moment pour écrire une pièce sur cette période-là, puis on m'a dit toutes sortes de... C'était un peu mêlé dans ce qu'on m'a dit. Et je voudrais savoir aussi quel était le rôle de l'Église. Est-ce qu'ils étaient du bord des pauvres? Est-ce qu'ils étaient du bord des riches? Est-ce qu'ils essayaient de se positionner par rapport au mouvement socialiste? Parce que là, il y avait l'encyclique là, du pape, Rerum Novarum, je crois. En tout cas, il y a tout ça, là. Je voudrais savoir...
C'est Quadragesimo Anno, plutôt.
Oui, bon, vous êtes plus spécialiste que moi. Mais je veux savoir comment se situait l'Église? Est-ce qu'il y avait deux Églises? Voilà, c'est toutes ces questions-là.
Comment se situe l'Église? Je pense que ce qu'on est en train de...
Comment elle se positionnait? Est-ce qu'il y avait plein d'Églises? Je ne sais pas. Les pouvoirs, etc.
D'abord, ce qui ressort beaucoup de l'historiographie des 10-15 dernières années, c'est que l'Église, ce n'est pas du tout le monolithe qu'on pourrait penser. Il y a différents courants dans l'Église. Ce qu'on doit rappeler de la façon dont elle se positionne dans les années 30, j'ai évoqué la répression très, 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 très dure. Tous les historiens le soulignent à quel point elle est même hors de proportion compte tenu la répression qui se fait contre les communistes ou finalement qui finit par toucher bien au-delà des quelques communistes qu'il y a réellement. L'Église, par exemple, va vraiment se lancer dans une espèce de chasse aux sorcières contre les communistes, en tout cas une partie de ses représentants. Je pense au frère Joseph Papert Chambaud avec l'École sociale populaire. Elle va, en même temps, elle va participer, pour reprendre l'exemple de Joseph Papin Archambault, c'est autour de lui qu'un groupe de prêtres et de laïcs va concevoir un document assez particulier, le programme de restauration sociale, qui est en fait un bon témoignage finalement du brassage d'idées qu'il peut y avoir dans les années 30, y compris à l'intérieur des différents courants nationalistes. Et qui est un document où on trouve mêlés à la fois un appel au retour aux valeurs traditionnelles et puis des revendications pour des mesures qui feraient que l'État défendrait et aiderait les intérêts économiques des Canadiens français très lourdement touchés par la crise. Et c'est un programme aussi qui propose toute une série de mesures sociales tout à fait progressistes. Donc vraiment ce mélange dans le même document, un document qui va être adopté tel quel par l'action libérale nationale, par les jeunes libéraux qui prennent leur distance face au Parti libéral et qui vont s'associer à l'Union nationale de Maurice Duplessis. En fait, il y a tout ça dans l'Église, finalement. Et puis, les mouvements, donc c'est des mouvements dont j'ai parlé, JOC, c'est des mouvements dits de catholicisme ciblés parce qu'ils ciblent des groupes sociaux et des groupes d'âge particuliers. Je pense que là, il y a aussi il peut y avoir des influences variées. Il semble y avoir un brassage d'idées, parfois une espèce de flou politique. Mais c'est des mouvements qui situent, c'est peut-être ce qui marque la nouveauté. Ils sont bien sûr situés dans le catholicisme, dans les mouvements de catholicisme social, mais ils ne sont pas simplement encadrés par l'Église. Ces mouvements de jeunes montrent aussi une certaine volonté d'autonomie face à l'Église. Et puis pour d'autres mouvements qui ne sont pas organisés par l'Église, une certaine volonté d'autonomie aussi, même si dans les classes aisées et les adultes sont très préoccupés du sort des jeunes et des jeunes chômeurs. Et de façon générale, c'est toujours ces groupes sociaux dont on se méfie, dont on craint qu'ils créent des problèmes sociaux. Voilà.
Merci. Madame.
Oui. Merci beaucoup. Mon nom, c'est Estelle Assasson. Et je crois que l'histoire doit nous enseigner quelque chose pour vivre mieux dans le futur. Et apparemment, nous sommes en train de rentrer dans une autre crise économique. C'est ça qu'ils disent. Il y a déjà une grande séparation entre les riches et les pauvres avec la mondialisation. Eux, Ma question, bon, avec des décisions humaines, hein, ça, il n'y a rien qui est arrivé spécialement dans le monde. Mais ma question, vous avez dit que les gens sont partis à la campagne, aux fermes, pour se sauver un peu de la crise économique qu'il y avait dans ces années-là, les années 30. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il n'y a plus de fermes.
Je n'ai pas de solution à vous proposer, je le crains.
Je pense qu'un élément de la réponse, c'est justement ce que Sylvie avait dit avant, c'est-à-dire que pendant la crise des années 30, on se fie en fait au privé, c'est-à-dire à la famille, à la communauté, à la paroisse. Dans les années 40 et par la suite, dans les années 60, au niveau québécois, on adopte un ensemble de mesures qui font en sorte qu'il y a un réseau de soutien étatique qui est censé être là pour aider. On a vu depuis 20 ans, en fait, que ces mesures ne sont pas permanentes ou ne sont pas forcément permanentes. Elles peuvent être abandonnées aussi. Mais je pense que, en effet, si on n'a plus la ferme familiale sur laquelle compter, on a quand même un certain nombre de mesures publiques qu'il faudrait essayer de préserver.
Ce qu'on appelle les filets sociaux. Un commentaire ou...
Non, c'est une petite précision. Comme vous le savez, justement, la grande solution face à la crise, c'est le retour à la terre, les fameux plans Vautrin et tout ça. Et puis, c'est quand même drôle que durant la guerre, dans cette crise du logement, on va être capable de trouver de l'argent pour créer une petite ville, un petit village, enfin, la fameuse cité du tricentenaire derrière le stade olympique où vont vivre toutes les notables. Mais c'est une organisation catholique qui est derrière ça. Et moi, j'ai grandi dans la Val-des-Rapides, qui était à Lovington après la guerre, mais on ne vendait les terrains qu'à des catholiques. Ça fait que j'ai jamais vu de juifs, jamais vu de noirs, jamais d'orthodoxes. Il n'y avait que des Polonais, des Italiens et des Canadiens français. Alors, c'est comique. Puis, le parc, ça a été créé par des organisations catholiques. Alors, ce n'est pas une sorte de contrôle contre la crise du logement de l'après-guerre. Et puis, un dernier détail, vous savez que quand la guerre se termine, Ottawa ne peut pas revenir sur les situations de la guerre. Ils vont même convoquer les provinces dans une conférence. Mais il y a une province qui va refuser des échanges 50-50. C'est le Québec avec Maurice Duplessis. Toutes les autres provinces vont signer, sauf nous. Et c'est drôle de penser que c'est ses successeurs à Duplessis qui vont finalement accepter l'argent d'Ottawa. Mais je ne sais pas pourquoi, pendant 14 ans, on a dit non, 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 non. La seule chose qu'on a obtenue, c'est l'impôt en 54. Ça fait un drôle de paradoxe un peu historique. Comme si, en quelque part, on ne voulait pas accepter ce nouveau Canada qui émergeait. Et en 1948, juste un dernier détail, la pièce qui va être la plus populaire au Québec, c'est Ticoque, qui est l'histoire d'un bâtard qui part à la guerre, la chose n'attend pas, et dans toute l'histoire, il veut rentrer. Il le dit, j'ai un jour me retrouver dans un tramway avec ma femme et mes enfants, mais ça va être ma femme à moi, et ça ne sera pas un bâtard comme moi. Et le film nous laisse un peu comprendre que dans ce Québec, si tricoté serré, en quelque part, quelque chose a brisé à cause du conflit. On ne sait pas c'est quoi, peut-être que les gars sont partis à la guerre, peut-être que les femmes ne les ont pas attendus. Et un dernier détail aussi, en 1945, le fédéral fait une campagne contre les maladies vénériennes à travers le pays. Il semblerait qu'il y a eu une vague qui a frappé en quelque part. Ils ont même fermé les bordels à Montréal. Alors, si les Québécois sont si chasses, comment ça se fait qu'il y avait une vague de maladies vénériennes à la fin de la guerre? Peut-être que le conflit Merci. Avait peut-être créé un petit problème.
Merci. Est-ce qu'il y a un commentaire sur... Non?
Il y aurait beaucoup.
Oui. Oui, j'aurais une autre question. Pendant la crise économique, on parle beaucoup des milieux populaires, comment ils ont subi le chômage, tout ça. Moi, j'aimerais savoir, parce que, bon, aux États-Unis, on y en a parlé un peu, mais comment ça se passait au niveau des riches? Ceux qui avaient parce que je trouve que souvent, quand on parle de la crise, on parle très peu de y a-t-il des faillites? Y a-t-il du monde qui s'est suicidé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui.
Parce qu'aux États-Unis, on en a parlé beaucoup, mais ici, moi, à toute fois que je lis des livres, on me parle toujours, bien, c'est très bien, là, mais je trouve que tout le monde devait vivre cette crise-là. Est-ce qu'il y a de la business qui marchait? Est-ce qu'il y avait des affaires qui marchaient?
Vous avez parfaitement raison. En fait, de façon générale, c'est beaucoup moins étudié. On a beaucoup c'est moins ça. Étudié la façon dont la crise affectait les classes moyennes ou même les cols blancs et puis les familles plus riches. Bon, il semble en effet, vous avez évoqué des suicides, il semble qu'il y a plusieurs grosses fortunes montréalaises qui ont fondu pendant la crise. Il semble qu'il y ait eu effectivement une vague de suicides qui a affecté entre autres un membre de la famille Molson, il y a des faillites énormément, beaucoup dans le domaine de la petite entreprise, mais aussi dans des entreprises plus substantielles, des maisons de courtage importantes. Pas de faillite de banque, par contre, ni ici, ni dans l'ensemble du Canada. Mais bien sûr que les classes moyennes sont aussi, ne serait-ce que parce qu'une partie de ces classes moyennes ont pour clientèle une clientèle ouvrière. Et ça, en fait, on se rend compte, surtout quand on regarde les journaux, que, ou même quand on suit aussi les organismes charitables qui sont, et les programmes qui sont développés, que la détresse, c'est le fait que des gens des classes moyennes, et pas simplement des ouvriers qu'on est habitués, parce que dans plusieurs secteurs, le travail est saisonnier, il y a des interruptions assez fréquentes, du chômage assez fréquent. Donc, les ouvriers, on est habitués à les voir, à les retrouver, si on veut, dans les organismes de charité sont habitués à les desservir. Mais par contre, on voit à quel point on est choqué de constater qu'il y a aussi des travailleurs, des cols blancs, des gens un peu parmi, toute proportion gardée, beaucoup moins parmi les professionnels, mais quand même des gens des classes moyennes qui sont affectés. Et en fait, et du côté anglophone et du côté francophone, ça semble choquer tout particulièrement. C'est probablement d'ailleurs quelque chose, un des éléments qui fait réfléchir le plus sur la crise et qui contribue aussi à mettre en doute l'idée de la responsabilité. En tout cas, très vite, des organismes sont créés dans le réseau anglophone, anglo-protestant, des organismes sont créés, des bureaux d'emploi spécifiquement pour les gens des classes moyennes, dont on précise qu'on s'arrange pour qu'ils ne soient pas stigmatisés, ce qui en dit long sur, par ailleurs, le sort des ouvriers. Et la ville aussi va mettre sur pied à la fin de la crise, en 1938, un bureau d'emploi spécifiquement pour les gens des classes moyennes.
Merci. Oui.
Bonjour, Vanessa Bourgeois du Cégep du Vieux-Montréal. Je voulais savoir pourquoi le mouvement communiste a eu aussi peu d'adhésion au Québec durant ces années-là, justement, alors qu'en Europe, c'était beaucoup plus fort.
Dans les années 30, en fait, le Parti communiste va gagner des adhésions. C'est un moment où il va avoir plus d'adhésions. Mais en fait, il reste toujours marginal. C'est tout à fait vrai. Bon, une des raisons, c'est certainement... Bon, j'ai évoqué tout à l'heure la croisade de l'Église catholique qui est vraiment déchaînée contre les communistes. Alors ça, c'est certainement un élément puis, qui va faire alliance aussi avec le gouvernement pour mener vraiment une répression. Il y a un climat de répression très fort et je pense qu'il est même particulièrement marqué à Montréal, précisément à cause de cette application de l'Église catholique dans la lutte contre le communisme. Ça, c'est un élément. L'autre élément étant que, malgré leurs efforts, le Parti communiste, et c'est vrai aussi du CCF, va surtout recruter du côté anglophone ou immigrant, et a du mal, finalement, et reste... a du mal à recruter des représentants et des leaders canadiens-français. Et du mal aussi à prendre en compte les conditions particulières des Canadiens français, à se sensibiliser à la question nationale, par exemple. Ça reste identifié comme des mouvements à direction étrangère. Et de fait, le leadership ne laisse pas beaucoup de place aux Canadiens français. Il n'y a pas vraiment beaucoup de liens.
Je dirais que dans les années de guerre, le Parti ouvrier progressiste, en fait, qui est essentiellement le Parti communiste, accomplit quand même un certain nombre de choses. J'ai parlé d'Henri Gagnon, qui est le leader francophone du Parti ouvrier progressiste, qui, lui, est très actif et qui n'agit pas seul. C'est-à-dire, il travaille avec une équipe de camarades politiques. Mais je dirais que pendant la guerre, le mot d'ordre, c'est vraiment le front commun. C'est l'idée qu'on contribue à l'effort de guerre. Et Ce qui distingue, je dirais, le cas des communistes montréalais des cas des communistes européens que vous avez évoqués, il y a le contexte proprement québécois que Sylvie a évoqué, donc une répression de la part de Duplessis, par exemple, une dénonciation des communistes de la part des églises, pas juste l'Église catholique, mais aussi les églises protestantes. Mais je dirais qu'il y a aussi le contexte nord-américain et notamment le voisin du Sud, les États-Unis, qui, eux, sont évidemment anticommunistes. Et je dirais que ce contexte continental, ce contexte nord-américain est important. Il y a un anticommunisme virulent du côté des États-Unis avant la guerre, peut-être une petite détente pendant les années de guerre, mais ça reprend très rapidement, comme on le sait, dès 1945-1946 avec l'affaire Gouzenko, avec le rideau de fer qui descend. Alors, je dirais qu'il faut prendre en compte et les facteurs qui sont propres au Québec et les facteurs nord-américains qui font en sorte que les communistes ne vont jamais connaître un succès ici comme ils l'avaient connu dans certaines parties de l'Europe.
Oui. Bonjour, je m'appelle Paul Franck. À propos de la photo des messieurs qui étaient au secours direct, il paraît que dans la ville de Longueuil, tout le monde qui était sur le secours direct, tout le monde dans la ville savait qui était au secours direct. Fait qu'il y avait une certaine honte qui était rattachée à ça. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que tantôt, quand vous avez parlé de la société Saint-Vincent-de-Paul, les protestants et les juifs, et les mouvements qui aidaient les gens qui étaient pauvres, est-ce qu'il y avait aussi un mouvement de gens comme les catholiques qui allaient vers les protestants parce qu'ils se faisaient aider plus par les protestants qu'ils se faisaient aider par la société Saint-Vincent-de-Paul? C'est tout. Merci.
Pour cette dernière question, savoir s'il y a des catholiques qui vont plus du côté des protestants, j'ai vu ça mentionné à propos de groupes immigrants, en particulier la population italienne. Il y a une thèse de travail de sociologie qui est déposée dans les années 30, donc pendant les années de guerre, par Charles Bailey, qui va... entre autres faire des entrevues avec des familles italiennes et ukrainiennes de Montréal et disons que c'est très frappant parce que les familles italiennes semblent être trouver plus d'appui du côté des organismes protestants, mais disons j'ai pas de chiffres à donner à ça, je peux pas vraiment affirmer de façon très nette, mais c'est possible en effet.
Oui, une petite dernière, parce que je vais m'en réserver une, si vous permettez, grâce à mon rôle.
Oui, en fait, moi aussi, j'avais un peu la semblable question. Je m'excuse si jamais vous avez déjà répondu pour le public aussi. C'est justement, c'est ça, ça m'échappait, si les organisations religieuses ou autres, par exemple, protestants, catholiques, tout ça, est-ce qu'ils étaient comme vraiment sans condition, disons, ils représentent leur foi, tout ça, comme bon samaritain, voulaient l'aider tout le monde, ou c'était comme il y avait des conditions là, il fallait aller à la messe et tout, il fallait que tout le monde soit catholique, ou quand même ils ont distingué, donc c'était pas aussi bon samaritain sans juger, mais disons maintenant en réfléchissant, je sais pas s'il y avait des études de ça déjà.
Les réseaux fonctionnent de façon distincte, mais comme je l'ai rappelé, toute la société civile québécoise est organisée suivant ces divisions. Mais effectivement, donc les organismes catholiques s'occupent de catholiques, quoique par exemple la société Saint-Vincent-de-Paul à Verdun va desservir pendant quelques années la population anglo-catholique. Mais autrement, il n'y a pas vraiment de recoupement.
Ça veut dire que si quelqu'un avait des problèmes de crise avec ses enfants, tout ça, il n'a rien dit, il s'en va, j'ai besoin d'aide, aidez-moi s'il vous plaît. Par exemple, je crève de faim, j'exagère, mais est-ce que vous êtes catholique, vous êtes où, tout ça,
donc, probablement qu'il va être dirigé vers les organismes catholiques.
Est-ce qu'il y a des preuves, des documents là-dessus que c'était distingué ou tout ça, non?
Non, on connaît le fonctionnement. Par ailleurs, on sait aussi qu'il y a des différences dans la façon dont les secours sont gérés d'un réseau à l'autre. Ce que vous avez évoqué comme le genre de contrôle, en fait, que ce soit du côté catholique ou protestant, On veille aussi aux bonnes mœurs, par exemple, on vérifie les bonnes mœurs. Et puis bon, il y a eu des exemples de prêtres qui s'assurent de distribuer les secours après la messe, par exemple, et s'assurer. Bon, mais c'est pas une pratique nécessairement généralisée. Il y a d'autres types de critiques qui ont été faites aussi de la gestion de ces secours par ces organismes.
Merci. Avant le mot de la fin, moi, je vais, en 35 secondes, je vais vous demander une question qui est, en fait, c'est, je vais reprendre le chapeau, bon, de personnes qui s'intéressent à l'histoire régionale. On parlait de cette période, ces deux périodes troubles, en fait, qui vont faire que le Canada, le Québec sera plus pareil après. L'État va s'inscrire et tout ça. Mais si on regarde avant la crise, avant la guerre, Montréal est la métropole économique. Après tout ça, c'est fini, on passe à autre chose, graduellement. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Là, on cherche tous la réponse, pardon. Toronto a joué un rôle important, mais il y a quelque chose qui se passe aussi même à l'histoire régionale, à l'histoire de la région de Montréal, avec la crise et ensuite de ça, avec la guerre. Toronto, donc, va avoir profité un peu de cette période-là pour prendre les devants ou...
Il faut peut-être rappeler aussi que c'est... Il y a une rivalité déjà entre les mm-hmm. deux villes très forte. Déjà, au moment de la Première Guerre mondiale, à partir de la Première Guerre mondiale, on peut déjà peut-être se parler de deux métropoles. Et puis, c'est vrai que c'est dans les années 1930-1940 mm-hmm. que se consomme la rupture entre deux époques. L'époque où Montréal, je disais que les premiers secteurs à être affectés, c'est les secteurs qui font de Montréal, qui ont fait de Montréal au départ une métropole. Et elle est une métropole parce qu'elle est au centre d'un réseau d'échanges avec l'Ouest et des exportations vers l'Europe. Donc, c'est développé suivant un axe Est-Ouest. Alors que de plus en plus, les échanges vont se faire davantage avec notre voisin du Sud, justement. Et là, Toronto est mieux placé. Et ce changement-là, qui est déjà bien amorcé avant la crise, va se consommer dans les années 30-40, en tout cas.
Je mettrais, par contre, un petit bémol, dans le sens où, je l'ai dit au début de la guerre, il y a à peu près le tiers de la production industrielle pour la guerre, c'est-à-dire à peu près le tiers des travailleurs canadiens qui travaillent dans les industries de guerre, qui travaillent dans la région montréalaise. C'est toujours le cas à la fin de la guerre, c'est-à-dire on ne voit pas cette emprise torontoise tout de suite pour la durée de la guerre. Et je dirais quand même pour le reste des années 40, pour les années 50, Montréal se voit encore comme métropole et du Québec et du Canada. Puis une autre chose qui se produit, et ça tire ta question dans un autre sens, mais c'est que il y a bel et bien ce déplacement du capital vers l'Ouest dont Sylvie parlait. Il y a aussi ce lien nord-sud, mais ce qui se passe aussi, c'est que sur le plan politique, c'est à partir des années 60, en fait, le Québec qui va devenir le territoire de référence pour bien des Montréalais. Et donc, même s'ils sont conscients, en fait, que sur le plan économique, il faut penser au lien nord-sud, au lien, au déplacement vers l'ouest, il y a aussi un enracinement, je dirais, dans l'espace politique québécois. Donc.
Merci. Donc... Donc, vous pourrez voir que ça vaut sûrement le coup d'acheter ces bouquins à la fin de l'été pour Noël. Vous allez avoir plein de chapitres comme ceux-là, intéressants, avec des questions et des réponses aussi. Donc, merci encore et bonne soirée. Merci aux auteurs.